aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Benaya pour Maurice Garrel Litzimer au Théâtre des Mathurins. Un texte écrit par toi, Olivier, et lu par Maurice Garrel sur scène.
Oui, tout à fait. Il nous a fait le plaisir et l'honneur de bien vouloir le faire. Il a lu le texte et il nous a appelé 3 jours après en disant que voilà, ça l'avait touché et qu'il voulait qu'on se rencontre. À partir de là, ça s'est fait très rapidement. Et voilà comment on en est arrivé à ce truc. Bah, c'est pas un spectacle, je sais pas trop quel mot utiliser. C'est quelque chose d'assez particulier, c'est un projet, c'est quelque chose de... Voilà.
Rien dévoilé, mais c'est Maurice Garrel qui est sur scène dans un fauteuil, comme il pourrait être dans un appartement, un peu plongé dans la pénombre, avec une bougie. Régulièrement, comme un... Pas un professeur, mais quelqu'un qui fait une conférence, il prend un petit peu d'eau pour s'éclaircir la voix. Et il a une voix assez grave, il lead. Mais c'est vrai qu'il y avait de l'humour dans le texte, et la salle réagit bien. Donc c'est un texte très politique, parfois assez cru, assez très direct. Mais c'est vrai que la tonalité de la voix de Maurice Garrel et puis son côté un peu anglais ou grand propriétaire terrien au coin du feu qui lit ses mémoires, c'est.
Je suis d'accord, ouais. Disons qu'on a cette chance que Maurice Garrel, il a cette présence qui fait que, quel que soit le texte, j'ai envie de dire qu'il irait, de toute manière, il a un truc qui fait qu'il donne un cachet au texte. Là, on avait décidé de rester dans la neutralité la plus totale ou presque, en ne mettant finalement qu'une bougie et... en jouant sur l'éclairage, parce que, étant donné que le texte est suffisamment parlant, suffisamment fort, c'est ce qu'il nous semblait, c'était pas la peine d'en faire des tonnes, il s'agissait pas de le jouer. Donc il fallait quelqu'un qui ait son un petit peu monocorde, au risque parfois, mais c'est quelque chose qu'on assumait, on en a parlé avec lui, de prendre le risque d'être un peu ennuyeux quelquefois, mais parce que il n'y a pas à en rajouter, c'est pas du spectacle, c'est vraiment un texte, chaque mot a son sens. Et les choses qui sont dites parfois sont suffisamment dures, violentes, agressives, déplaisantes. Il y a des gens qui vraiment nous ont jeté le texte au visage, hein, même après la représentation. Donc c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Il est là, il se suffit à lui-même, il a cette voix et cette compréhension du texte surtout. Il a absolument tout compris, donc ça permet d'avoir quelque chose de pas chargé et avec lui.
Alors concernant la diction, j'ai surpris une conversation entre donc Philippe Garrel et son père Maurice Garrel. Et Philippe Garrel, qui a travaillé entre autres avec Piala, disait que Piala faisait ses montages en gardant un élément, un petit élément clé, qui allait permettre de rebondir dans le plan suivant. Quand Maurice Garrel lit le texte, très souvent, ou alors c'est peut-être pour reprendre sa respiration, mais il va dire un adjectif qualificatif. Après, ça va être haché en tournant la page. Est-ce que c'est fait exprès ?
C'est assez amusant parce qu'en fait, je lui ai posé moi-même la question. Sa diction est très particulière, hein, au-delà de ce texte. Et je lui ai demandé si c'était adapté au texte ou si c'était quelque chose qui lui plaisait. Et en fait, je crois que c'est quelque chose qui lui est propre. Alors là, effectivement, ça se prête au texte et ça permet des respirations. C'est vraiment un lecteur. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est vraiment... un grand, grand, grand lecteur. Moi, il m'a bluffé. Il a une culture littéraire et théâtrale qui est vraiment, vraiment impressionnante. Et donc, les mots dans sa bouche, dans sa tête, c'est quelque chose auquel il attache énormément d'importance. Donc, il n'hésite pas à jouer avec. Il creuse. On a passé des heures entières avant la représentation, des engueulades effroyables pendant 2 ou 3 heures ou 4 heures. Il fallait justifier chaque mot, chaque phrase. C'était assez violent quelquefois. Pour lui, les mots ont un sens, ont une place, ont une connotation, s'inscrivent dans un imaginaire. Et quand il hache les phrases, voilà, il le fait en fonction. C'est assez intéressant. Sa diction, c'est vraiment un élément du projet.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le titre ? Zimmer. D'où vient Zimmer ?
Zimmer, c'était simplement... Alors, je ne savais même pas à l'origine. On me l'a dit, donc maintenant, je suis obligé de dealer avec ça. Je ne savais pas que Zimmer voulait dire chambre en allemand. Je ne le savais même pas. Donc, Zimmer, c'était simplement... Je cherchais simplement un nom qui soit représentatif de les juifs, Ashkenaz, 70 ans, 80 ans. Donc il me fallait simplement un nom avec une sonorité qui s'inscrit dans un imaginaire. Zimmer, Bernard Zimmer, parce qu'il y avait beaucoup de Bernard, parce que j'ai rencontré beaucoup de Bernard de cet âge-là, et parce que Zimmer me semblait coller. Mais il n'y avait absolument aucune autre idée derrière, aucun plan. Voilà, c'était vraiment une question de sonorité et de représentativité. Aucun mystère, rien, pas de sens caché, pas d'éléments psychanalytiques, rien. C'était vraiment un nom représentatif d'une certaine catégorie.
Par exemple, quand on voit l'affiche du spectacle avec Zimmer et puis le graphisme très, très BD, très tardi, je ne sais pas si c'est le mot, c'est vrai que ça ressemble presque à un slogan ou à un personnage.
C'est vrai que ça nous... quand je dis que ça ne traduisait qu'un imaginaire et une catégorie de personnes, c'est, non. Il y avait aussi le fait que la sonorité permette quelque chose d'assez sec, d'assez explosif, d'assez... Oui, on n'est pas loin de l'ordre du slogan avec l'affiche, effectivement, ce vieux monsieur dont les traits s'apparentent aux caricatures juives des années antisémites, des années 30, 40. Ce mec qui se met un pistolet et le nom Zimmer en dessous écrit avec ce graphisme. Moi, ouais, il est clair que... on voulait quelque chose qui puisse se suffire, vraiment. Il fallait vraiment que tout se suffise, qu'on mette l'affiche et que déjà ça évoque quelque chose, que ce soit parlant. Maintenant, le nom en lui-même, c'était juste un objet, c'était juste un outil, de la même manière que le pseudonyme que j'avais utilisé à l'origine, Louis Bloch, lui-même ne devait que s'inscrire dans un imaginaire et servir le texte. Tout ne devait que servir le texte. Voilà, le nom, le mien, celui du personnage, l'affiche.
Alors, sur une des versions de l'affiche, Maurice Garrel, enfin le personnage, met un pistolet dans la bouche. Le début du texte commence par révélation directe, frontale au spectateur en disant qu'il est revenu des camps. Et la fin du texte, il nous souhaite bon holocauste.
Il leur souhaite, en tout cas, il leur dit « je vous souhaite, donne mon holocauste, je vous le souhaite de... » Bref, c'est un peu compliqué. Là, pour le coup, il y a quand même le cheminement durant tout le texte d'un mec qui est perdu complètement parce que c'est un suicide. Le fait de tuer des gens, c'est une forme de suicide vraiment impossible. Donc ce gars-là, tout ce qu'il dit est lucide parce que comme beaucoup de fous, son système, le système dans lequel il évolue est très cohérent. Tout ce qu'il dit est très cohérent. Il y a très peu de choses dans le texte. Je crois, je suis même pas sûr de pouvoir en citer une qui ne soit pas cohérente. Tout fait sens. On peut comprendre tout ce qu'il dit. Pour autant, c'est un assassin. Donc quand on arrive là, c'est qu'il y a une faille. La fin, c'est vraiment une manière de partir. C'est vraiment, il part. À ce moment-là, il se débarrasse de tout. Il part et peu importe qui reste, ce qui reste, avec quoi les gens restent, il est parti, c'est un fardeau, c'est vraiment un fardeau épouvantable. Tout le cheminement de ce gars-là, les 40 dernières années de ce gars-là sont condensées en une heure, en définitive. C'est un testament, on n'est vraiment pas loin du testament.
Alors c'est un personnage qui est déjà, comme le dit le résumé du texte, qui est déjà mort en fait, puisqu'il revient des camps.
Il est déjà mort parce que, alors bien sûr je peux absolument pas parler au nom de gens qui ont vécu cette expérience, mais quand je dis cette expérience... J'aurais envie de dire presque ce type d'expérience, parce que des gens qui ont vécu des camps ailleurs, dans d'autres types de conflits, c'est similaire. Ça n'est pas la même chose d'un point de vue historique, les faits ne sont pas les mêmes, mais l'expérience humaine de dégradation et de ce que ça suscite comme traumatisme est probablement la même, je ne sais pas. Mais ce gars-là est déjà mort, et ce mort aux juifs qu'il entend en place de la République, c'est une manière de... C'est très étrange, je ne sais pas, j'ai essayé de me mettre dans la tête de ce gars-là. Ce que ça fait ressortir en violence physique, ce que ça fait, vraiment je ne sais pas. Là, ouais, mais c'est pas une manière de botter en touche. C'est que on est dans l'impact physique encore une fois. Donc je sais pas, je peux pas parler au nom de ces gens-là. Dans la mesure où des gens d'un certain âge qui ont connu ces réalités-là me disent que ça fonctionne, je peux que m'en remettre à eux. Mais si quelqu'un me disait ça ne fonctionne pas, je le comprendrais aussi. Je sais pas. Là, c'est très personnel. J'ai fait ça parce que ça me semblait être une réaction possible. Je peux pas en dire plus, pas parce que je botte en touche, mais parce que ce serait presque indécent de vouloir...
On a parlé tout à l'heure un peu de la pièce, mais juste le contexte d'écriture. Tu l'as écrit lors des événements en banlieue où il y a eu...
Ça a commencé au moment où les synagogues brûlaient, ça s'est terminé au moment où les banlieues finissaient de brûler. Je trouve complètement dingue qu'il n'y ait rien dessus, qu'on fasse pas de film là-dessus, qu'on fasse pas de livre. Quand je dis livre, je parle pas de mecs qui sortent des analyses et les trucs, ça, on s'en fout. Mais je trouve dingue qu'il n'y ait pas de film là-dessus. C'est quand même pas anodin. C'est ça l'histoire contemporaine. Les gens continuent à nous emmerder avec les films sur Vichy. Il y a une histoire contemporaine, des choses qui se passent aujourd'hui. Le passage sur les pères de tous ces Arabes qu'on a fait venir et qui se sont retrouvés au chômage, dont tout le monde se fout. C'est des choses contemporaines. L'histoire contemporaine, elle est là. Alors après, on va peut-être continuer à nous emmerder avec l'Algérie et Vichy pendant 200 ans. C'est important. Mais il y a des choses aussi importantes là, parce que c'est une partie importante du texte. Effectivement, il y a une grosse part juive, mais je ne suis pas convaincu pour tous ces musulmans qui ne trouvent pas de boulot. Il y a des passages... Le narrateur, qui est pourtant un assassin, fait preuve à leur égard d'une empathie et d'une compréhension qu'on trouve rarement, parce qu'elle est très crue et elle est exprimée de manière brutale. Il fait preuve à leur égard d'une compréhension, je trouve, qu'on ne trouve pas manifestée dans beaucoup de films ou de trucs, parce que pour la première fois, quelqu'un s'adresse à eux sans compassion, sans faire semblant de comprendre, avec une forme d'émotion minable, leur problème. Il le parle crûment quand il dit que ces gars-là sont surnuméraires, qu'ils sont en trop. Je pense que beaucoup le pensent. ou le perçoivent comme ça, et que ils préféraient l'entendre de cette manière, parce qu'au moins ça permet des réactions brutales. Voilà, donc c'est un texte contemporain, et c'est en ça qu'il est politique, et ça m'emmerde qu'il n'y ait pas davantage de... Il y a ce passage dans le texte où le type évoque en filigrane Dieudonné. Dieudonné, c'est une réalité politique, c'est quelque chose qui existe. On peut toujours buter en touche et dire, envoyer des mecs... Mais c'est une réalité politique, c'est intéressant. D'autant que c'est un gars qui n'est pas dénué de talent. Donc ce gars-là, c'est intéressant. La réalité, ce qu'il représente, comment il en est venu là, comment sa parole s'est trouvée libérée, tout ça, c'est intéressant. On ne peut pas simplement dire c'est pas bien Dieudonné, ou c'est un enculé, ou c'est au contraire un type très bien, parce que les sionistes, c'est des salauds. On ne peut pas seulement dire ça, il faut essayer de le comprendre d'une autre manière. Effectivement, ce qui est clair dans le texte, c'est que si moi, quelqu'un vient le cramer, ce gars-là, au fusil à pompe, j'en ai rien à foutre, parce que je trouve qu'il dit des choses odieuses, mais il n'empêche que je lui trouve infiniment plus de talent que beaucoup de ses détracteurs. Parce qu'il a réellement du talent, ce gars-là. Parce que ce qu'il fait, il est probablement pas conscient complètement de ce qu'il fait, ou plutôt il est très maître de ses actes, mais ce qu'il ne maîtrise pas, c'est à quel point il s'inscrit dans un contexte qui le dépasse. Donc oui, c'est un salaud, et à ce titre, il mérite d'être laminé. En revanche, il a aussi... C'est quelque chose de très complexe, ce sont des réalités complexes, tout ça. Donc, par rapport à ça, il faut des miroirs complexes. Et en ce sens, le texte me semble être un miroir aussi complexe que la réalité qui... Voilà. Et en tout cas, j'y reviens, mais c'est beaucoup plus complexe que Gad Elmaleh, Jamel et je sais pas quelle blague qu'on pourrait mettre qui viennent faire le Comedy Club. C'est plus complexe que ça. Pour revenir à Dieudonné, parce que c'est un truc qui m'intéresse, il a au moins ce mérite-là, même si je lui trouve un... même si je le déteste. Il a au moins ce mérite-là qui est nécessaire et qu'il faut lui rendre, de marquer les camps, de cliver. Au moins, on peut dire, ce gars-là, je le déteste violemment et je peux sortir les armes. Et ça s'inscrit dans une logique que je trouve intéressante, parce qu'elle va complètement à l'encontre du côté « Ok, tout est cool » ou « Tout n'est pas cool, mais il faut parler, il faut se donner la main, il faut truc ». Non, il y a des camps. Il y a clairement des camps, et c'est important.
En fait, on peut faire un parallèle peut-être avec Didier Desnin, qui fait des livres sur ce qui s'est passé, l'histoire contemporaine.
Bah oui, mais c'est quelqu'un qui est très, très intéressant, voilà. Desnin, bah oui, mais je sais pas quoi dire d'autre, sinon que ses livres sont parfois excellents, que lui c'est quelqu'un d'intéressant, dont je partage pas toutes les convictions, bien évidemment. Mais je préfère quelqu'un d'intéressant et de stimulant intellectuellement, dont je partage pas les convictions et avec qui je peux aller me taper, à 50 mecs avec qui je peux juste aller déconner, parce que c'est facile de déconner dans le texte, il y a plein de vannes, donc c'est... Je trouve que c'est intéressant.
Bon bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez voir Maurice Garrel, L'Île Zimmer, Théâtre des Mathurins. C'est de l'histoire donc très contemporaine, puisque là on sort à peine des élections européennes où pour la première fois il y avait une liste entre autres antisioniste, donc je pense que le théâtre peut aussi amener à faire réfléchir.
Ceux qui s'intéressent ou qui pensent s'intéresser aux réalités politiques et qui... ça peut valoir le coup, ça vaut le coup d'aller jeter une oreille, parce qu'en plus Maurice Garrel est vraiment excellent. Et alors juste si je peux faire une petite remarque, il est très possible, malheureusement, ça m'embête de dire ça tout de suite, mais que le spectacle du 14 soit annulé, parce que justement Maurice Garrel a une petite grippe. Et donc voilà, à partir du 21, plus exactement 21-28, on va voir comment ça va évoluer. Il est possible que ça reprenne ensuite en septembre, mais le 14, a priori, il n'y aura pas de représentation, donc 21-28 juin. Voilà, et puis merci beaucoup.